Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée et présentée par Emmanuel Huissement-Perrin.
Anicet Le Porce, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de terminer trois ouvrages que je mentionne pour évoquer votre incroyable énergie au service des causes qui vous tiennent à cœur. D'abord, deux livres sur le droit d'asile, la troisième édition de votre Que sais-je sur le droit d'asile au PUF et la publication d'un essai intitulé « Juge de l'asile » chez Michel Oudiard, où vous faites part de votre expérience de président de la section, de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. Expérience où vous confrontez le point de vue critique qui est toujours le vôtre sur les citoyens d'ici et ceux qui viennent d'ailleurs, et que vous rencontrez comme juge au terme d'odyssées souvent extravagantes. Et puis, un troisième ouvrage sur lequel je vais revenir longuement aujourd'hui, plus autobiographique, issu d'entretiens avec Jean-François Beige, paru aux éditions Le Télégramme. Alors, il ne s'agit pas véritablement de mémoire, car vous n'aimez pas trop le genre autobiographique. Et vous dites d'ailleurs, en plaisantant sans plaisanter, que c'est trop tôt maintenant pour écrire vos mémoires. Vous y produisez plutôt des analyses qui s'adossent au présent pour éclairer l'avenir. Alors, cet ouvrage est intitulé « Les racines et les rêves ». Il aurait pu s'intituler aussi « Breton, ministre et communiste ».
Oui, il aurait pu, mais sauf que je suis toujours breton, mais je ne suis plus ministre ni communiste.
Donc le titre n'allait plus. Il était plaisant, provocateur, mais plus juste, plus pertinent.
Voilà.
Breton, vous l'êtes, mais dans un attachement que je trouve très intéressant et qui vous distingue, par exemple, de ce que Mona Ozouf écrit à propos de l'identité dans son ouvrage « Composition française ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre position sur l'identité ?
Oui, j'ai lu avec intérêt ce qu'a écrit Mona Ozouf dans « Composition française », d'autant plus que nous avons des racines communes. Sa maman est née en 1905 dans un bourg du nord du Finistère, Lannilis, comme la mienne la même année. Donc ça m'intéressait beaucoup. Je crois que Mona Ozouf a quelques difficultés à articuler ce qu'elle appelle l'homme abstrait, qui est une sorte de théorisation du citoyen produit de la Révolution française, et puis l'homme, ou la femme en l'espèce, fait de chair, de sentiments, de sensibilité. Et elle a de la difficulté à faire l'articulation entre les deux pour donner sens sans doute à sa propre démarche. Il me semble qu'elle nourrit par là une confusion que pourtant Cicéron me semble avoir levée il y a 2000 ans en disant que le citoyen romain était à la fois, avait une patrie de nature qui était bien entendu celle de ses racines, et une patrie de droit qui était celle qui lui était conférée comme membre de la communauté des citoyens de Rome. Et il disait, il est normal que la patrie de nature soit un lieu d'attachement pour le citoyen. Mais ce qui lui donne la citoyenneté, ce qui lui donne des droits, et ce qu'il faut retenir dans l'organisation sociale, c'est la patrie de droit. Et par là, socialement, elle lui est supérieure. Je crois que si Mona Ozouf reprenait cette distinction vieille de 2000 ans, son horizon s'éclaircirait.
Ministre et communiste, si on reprend la formule, vous l'avez été, mais sans jamais renier qui vous avez été, ce que vous avez fait, ce qui vous intéresse, me semble-t-il, c'est toujours l'avenir. D'ailleurs, dans la vision de l'histoire qui est la vôtre, il ne peut y avoir de séquençage mécanique. Vous dites bien que l'essentiel, c'est de savoir où nous en sommes, et ce que vous dites dans votre livre, c'est que nous en sommes à un moment de désarroi idéologique, après une longue période volontariste qui a échoué et qui a laissé un héritage sans qu'apparaissent encore les traits de la nouvelle civilisation. Et d'ailleurs, à ce propos, vous citez souvent ce vers de Musset ou cette phrase de Musset dans les Confessions d'un enfant du siècle.
On ne sait à chaque pas qu'on fait si on marche sur une semence ou un débris.
Oui.
Je crois que c'est caractéristique effectivement de notre époque. Il y a une quinzaine d'années, j'avais écrit un livre qui est dans le même esprit. Pendant la mue, le serpent est aveugle. Pour montrer qu'entre deux états, il y a une période de particulièrement vulnérable. Et je crois que nous sommes dans cette situation, celle aussi qu'évoquait Alfred de Musset dans la pensée que j'ai citée. Effectivement, je crois que nous sommes dans une période très intéressante, même si elle est douloureuse et même si elle est lieu de grandes souffrances. Les hommes s'intéressent depuis très longtemps sur le sens de leur histoire. Et on a essayé d'en donner une analyse scientifique. Le marxisme proposait, par exemple, qu'après le communisme primitif, il y avait le féodalisme, puis le capitalisme, puis le socialisme, puis le communisme. Il y avait un sens de l'histoire qui se prétendait scientifiquement fondé. Pourquoi les choses n'ont pas marché? À mon avis, parce qu'on est resté tout au long de ces séquences qui nous ont amenés jusqu'au XXe siècle sous l'influence d'une transcendance à laquelle n'a pas échappé ce XXe siècle que René Raymond qualifiait de prométhéen. Je crois effectivement que l'organisation communiste, par exemple, ressemblait de très près à une église et on en retrouvait toutes les caractéristiques. Cette sacralisation de l'appareil, ce messianisme de l'avenir tel qu'il était décrit sur des bases prétendument scientifiques et qu'il l'était partiellement, mais qui était une analyse scientifique simpliste, eh bien, s'est effondrée parce qu'elle n'a pas pris en compte la complexité du genre humain et de la vie. Alors, aujourd'hui, notre tâche, me semble-t-il, devant ce qu'il faut appeler un échec, c'est d'y réfléchir, c'est d'en faire l'inventaire, c'est de considérer qu'il y a eu un essai prométhéen qui a échoué, d'en tirer toutes les leçons et de remettre la question du sens sur le chantier. Il est tentant, et certains n'y résistent pas, de récuser le XXe siècle comme étant celui d'un échec colossal, celui de l'Union soviétique, pour parler simple.
Claire.
Je crois que ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il y a, dans cet effort qui a été fait, toute une série d'éléments qui peuvent être repris. Par exemple, aujourd'hui, on parle très peu de socialisme.
Mm-hmm.
Je suis, pour ma part, pour qu'on remette le socialisme sur le chantier. On disait que le socialisme, c'est la propriété des grands moyens de production, d'échanger de financement, le pouvoir de la classe ouvrière, de ses alliés. Et il devait en ressortir un troisième élément, l'homme nouveau.
Mm-hmm.
On a vu que la propriété était insuffisante si elle n'était que juridique et accaparement par l'État, que la classe ouvrière, évidemment, elle a subi au cours des dernières décennies une mutation considérable. On ne peut plus parler de la classe ouvrière comme d'un ensemble homogène.
Mm-hmm.
Et quant à l'homme nouveau, il n'a pas émergé précisément parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on a négligé le citoyen en lui-même.
Votre idée, Anicet Le Pors, c'est que précisément le concept de citoyenneté est absolument central. Et au fond, de votre attachement au marxisme, vous faites ressortir l'idée que sans doute, autour de la citoyenneté, autour peut-être aussi de l'individu citoyen de la Révolution française, il y a quelque chose d'absolument indépassable.
Oui, et ça nous permet, comme vous le dites, de renouer avec notre histoire. Ça a été quand même un formidable moment, celui où on a dit « ici on s'honore du titre de citoyen et on se tutoie ». Déjà, vous voyez, le camarade perçait sous le citoyen. C'était intéressant, je trouve. Non, quand je dis qu'il faut remettre sur le chantier une vision socialiste de l'évolution de la société, je veux dire par là quoi? Que la propriété juridique ne suffit pas. Il faut donc l'entourer de toute une série d'instruments de maîtrise, de la recherche, de la formation, du commerce extérieur, de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, etc., etc. La classe ouvrière, je ne crois pas qu'on puisse parler du pouvoir de la classe ouvrière aujourd'hui, mais nous sommes interpellés pour répondre à la question « quel système institutionnel voulons-nous? Quel type de démocratie souhaitons-nous? Comment articuler le pouvoir des citoyens et la nécessité d'une démocratie représentative? On n'a pas répondu encore à cette question malgré les 15 constitutions qu'a connues la France depuis 2 siècles. Et alors, vous l'avez raison, la question principale, c'est celle du citoyen qui prend la place de ce mirage de l'homme nouveau. Et ça me semble à la fois un concept qui, historiquement, est daté de bonne façon, et puis aussi un concept très contradictoire. Dans le parti auquel j'appartenais, on considérait que le citoyen était un concept mou, car il ne révélait pas une analyse de classe, et donc il avait par nature un caractère consensuel dont il fallait évidemment se détacher, qu'il fallait condamner le cas échéant. C'était une grossière erreur. Et à mon avis, avec le concept de citoyen, on peut fédérer toute une série de valeurs auxquelles nous sommes attachés, qui font de la bonne façon l'identité française. Je veux parler de la notion de service public, de notre manière de traiter l'égalité, avec un modèle français d'intégration basé sur le droit du sol et l'égalité des citoyens. Je veux parler de la laïcité, toute valeur qui doivent être fédérées par précisément le concept de citoyenneté.
Et valeur à laquelle, à l'Union rationaliste, nous sommes très attachés.
Je pense, oui.
À la laïcité. Alors, du marxisme, vous avez sans doute aussi repris l'idée que la contradiction, la négation, l'échec pouvaient être quelque chose de positif. Vous avez d'ailleurs, il y a quelques années, écrit un éloge de l'échec. Et dans votre livre qui vient de paraître aux éditions Le Télégramme, Les racines et les rêves, vous faites une grande part à l'idée de décomposition, de champ de ruines. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est la réalité, me semble-t-il. Nous quittons donc un XXe siècle qualifié de siècle prométhéen. Et nous ne savons pas vers où nous allons. Et d'où ce désarroi qu'on appelle en général perte de repère. Eh bien, moi je dis dans ce contexte-là, n'ayons pas peur. Regardons les choses telles qu'elles sont. Alors c'est vrai que les symptômes ont de quoi inquiéter. Le développement des sectes, le développement des jeux de hasard, l'abstention croissante, etc. etc.
Quelque chose de l'ordre de l'irrationalisme aussi, hein, tout ça.
Oui, absolument. Mm-hmm. Oui. Donc, absolument, aujourd'hui, apparemment, c'est le règne de l'irrationalisme. Mm-hmm. Bien, avec un président de la République qui est ici et maintenant et sans passé, sans avenir non plus. Oui. Parlons de la décomposition. La décomposition, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, donc, il y a des symptômes. Mais ces symptômes, au-delà de ces symptômes, il faut se demander pourquoi c'est comme ça. Et c'est, à mon avis, parce qu'on a perdu les grandes références du XXe siècle, l'État-nation, la notion de classe qui n'a plus le même caractéristique, je le disais tout à l'heure pour la classe ouvrière. Les mœurs ont évolué beaucoup. La représentation géographique de l'exercice de la citoyenneté, qu'il s'agisse du village, de l'urbanisation, voire même de l'écosystème mondial, sont aujourd'hui des réalités qui ont changé. Et surtout, je dirais, ce qui devrait nous distinguer au XXIe siècle du XXe siècle, c'est l'écroulement des idéologies messianiques. J'entends par là, pour le libéralisme, le capitalisme, l'économie néoclassique, pour la social-démocratie, l'État-providence, et pour le mouvement révolutionnaire, communiste, le marxisme, qui garde beaucoup d'enseignements utilisables, mais qui ne peut pas rendre compte indéfiniment de la manière dont on doit penser les sociétés. Alors c'est tout cela, à mon avis, qu'il faut remettre sur le chantier. C'est extrêmement intéressant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu de vous décourager, ce que j'aime dans votre pensée, Anicet Le Poce, c'est que vous n'êtes pas triste, vous êtes confiant dans la force de la puissance de la raison à reconstruire ou à construire différemment, à poser les choses autrement. Et vous pensez que de la décomposition va naître quelque chose de nouveau.
Vous savez, René Char, vous connaissez cette formule de René Char, la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. Je crois qu'à partir du moment où on comprend ce qui se passe, d'abord on n'a plus peur. Et ensuite on est invité à l'action pour réparer ce qui ne va pas et imaginer de nouvelles idées, de nouvelles institutions, de nouvelles manières de construire du lien social. Autrement dit, c'est un monde nouveau qui s'ouvre devant nous et il est normal que nous ne le comprenions pas parce que nous n'avons, du point de vue intellectuel, que les instruments du passé à notre disposition. Mais je trouve ça tout à fait passionnant et de nature à nourrir un grand optimisme parce que c'est une aventure qui nous est proposée. Ou plutôt, c'est une multiplicité d'aventures. Il n'y a plus un sens de l'histoire, il y a une multiplicité de sens. Nous sommes en avenir aléatoire et notre responsabilité de citoyen est beaucoup plus importante que par le passé.
Vous dites d'ailleurs que vous appartenez, vous, en tant que militant, à un nombre d'associations considérables.
Oui, lorsque j'ai quitté cette organisation ultra structurée qu'était le Parti communiste, où on me donnait tous les attributs d'une citoyenneté définie avant même que j'y ai réfléchi, eh bien, aujourd'hui, quand j'ai quitté ce parti, je me suis dit « qui suis-je dans cette société ?» Et bon, je me suis dit, il faut que je m'engage ici ou là. Alors, je me suis engagé dans des associations de défense du service public, de la laïcité. Je suis président de l'Union des sociétés bretonnes de l'Île-de-France, des anciens de la météorologie nationale, etc. etc. Et j'ai vu que ça faisait une vingtaine d'associations. Et je me suis dit, ben, le citoyen Anicet-Leport, c'est cela. Son profil de citoyenneté, j'utilise l'expression de génome de citoyenneté, c'est cela. Et à partir de là, je me suis dit, oui, mais ça crée une difficulté. Avant, nous étions organisés avec un sommet, différents niveaux. Mmh. Aujourd'hui, si tout le monde fait le constat que je fais, on aura une société complètement atomisée, où chaque être sera singulier. Et la grande question qui se posera à nous à partir de là, c'est de savoir comment reconstruire à partir de cet éparpillement, mais un éparpillement d'une grande richesse. Puisque les gens ont assumé leur responsabilité de citoyen, chacun pour son propre compte. Comment retrouver des centralités qui fassent une société démocratique et efficace? C'est là le grand problème. C'est le contraire du problème du XXe siècle. Vous savez ce qu'on pense lorsqu'on parle de centralisme démocratique. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse que l'on doit faire. D'ailleurs, on sent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, on a du mal à considérer que les partis sont dorénavant l'instrument de la transformation sociale. On parle de coopérative, on parle de mouvement, on parle de front. Eh bien, c'est le tâtonnement des formes politiques qui seraient adéquates au monde d'aujourd'hui et au monde d'avenir.
Comme si, précisément, et ça sera notre conclusion, nous devions participer à un chantier rationaliste disséminé.
Absolument.
Anicet-Leport, je vous remercie. Je remercie Pierrick Charles et Brigitte Mazire qui ont rendu possible cette émission. Le mois prochain, je recevrai André Chiffrine.